Le fils Moga, deuxième partie, chapitre 11. Les mains derrière le dos, l'œil inquiet et les lèvres rentrées, Simon Moga arpentait son cabinet. Le banquier avait vieilli. Ses robustes épaules s'étaient voûtées, ses cheveux en brosse étaient presque blancs, et son teint avait pris des tons de brique de mauvais augure. Seul, sa physionomie dure et obstinée n'avait pas changé, non plus que celle du maussade cabinet de travail. Le vert fané des rideaux avait un peu plus jauni, les déchirures du papier s'étaient élargies, le cuir des chaises devenait plus luisant par place, et c'était tout. Les vitres, ternies par les mouches et la poussière, laissaient toujours passer le même jour blafard, et de sa même voix cassée, la pendule venait de sonner 9 heures du matin. M. Moga s'arrêta un moment pour l'écouter et poussa un soupir de soulagement. Il songeait qu'à 7 heures, le train de Poitiers stationnait à la gare des Maisons Blanches, et pour la 10e fois, tout en reprenant sa promenade, il refaisait le calcul du temps qu'il fallait à Célestin et à Étienne pour aller de Précigny à Saint-Clémentin. Si Tiffenot, en débarquant au bourg la veille au soir, avait eu la chance d'y trouver Étienne, il avait dû l'emmener sur le champ. Ils étaient dans ce cas arrivés à Châtellerault au milieu de la nuit, et par conséquent, ils roulaient maintenant dans l'omnibus qui desservait les Maisons Blanches. Encore 50 ou 60 minutes, et ils seraient à Saint-Clémentin. Cette dernière heure d'attente semblait insupportable après une longue nuit d'insomnie. Il avait la fièvre. Parfois, las de piétiner dans cette pièce étroite, il s'asseyait, prenait une liasse de papier et essayait de penser à autre chose pour tromper son impatience. Mais l'inquiétude l'empoignait de nouveau et il recommençait son va-et-vient saccadé et violent. Tout à coup, il s'arrêta et prêta l'oreille. On entendait sur le pavé de la rue un roulement sourd accompagné d'un tintement de grelots. C'était l'omnibus. Encore 5 minutes, et M. Moga allait être fixé. Il n'en pouvait plus et se laissa choir dans son fauteuil, ramassant son énergie et s'efforçant de ressaisir tout son sang-froid afin de faire bonne contenance devant son fils. Il y eut, dans le cabinet, un moment de silence profond, puis des pas firent crier les marches de l'escalier de service. M. Moga se leva tout d'une pièce et, au même instant, la porte du couloir, brusquement ouverte, livra passage à Étienne et à Célestin, couverts de poussière.
« Enfin, te voici !»
s'écria le banquier d'une voix rauque. Le père et le fils se regardèrent avec embarras pendant quelques secondes, émus de se revoir dans de telles circonstances, mais cependant, n'ayant pas assez oublié leur rancune pour se jeter dans les bras l'un de l'autre. « Vous m'avez appelé ? Je suis venu, » dit Étienne. « Que se passe-t-il ? » Le banquier hésita un moment, puis, faisant taire son orgueil, il saisit le bras d'Étienne et l'entraîna vers la fenêtre. Il sentait le besoin de toucher ce fils, qui était maintenant son seul point d'appui, et de s'assurer en quelque sorte matériellement qu'il pouvait encore se raccrocher à lui.
« Viens ici, » murmura-t-il. « As-tu faim ? Veux-tu prendre quelque chose ?»
Étienne, ayant répondu que Célestin et lui avaient déjeuné en route,
« Bon, » reprit M. Moga, « de cette façon, nous pouvons causer tout de suite. Célestin, laisse-nous. »
Tiffenot s'inclina et disparut. Étienne s'était assis. Le banquier à son tour se rejeta dans son fauteuil et chercha son début tout en rangeant machinalement les papiers épars sur le bureau.
« Vous avez besoin de moi ? » demanda le jeune homme.
« Oui,
j'ai jugé nécessaire de te mettre verbalement au courant de ma situation. »
Célestin ne t'a rien dit ?
Il m'a confié que la banque marchait mal et que vous aviez des embarras d'argent.
Oh, ils ne sont que momentanés, s'écria vivement le banquier.
Mais enfin, ils existent. Voici, j'ai fait de mauvaises spéculations. Cela peut arriver aux plus habiles. L'empereur répétait partout, l'empire, c'est la paix. J'ai cru à sa parole, moi. J'ai acheté des terrains à Poitiers. J'y ai bâti des maisons. Tout un quartier, nom de Djou. Je comptais que le commerce allait se porter du côté de la gare et que je revendrais mes bâtisses au poids de l'or. Mais cette sale guerre de Crimée m'a cassé bras et jambes. J'ai voulu me rattraper à la bourse et j'ai joué à la baisse, juste au moment où on annonçait la prise de Malakoff. Un guignon infernal, quoi. J'ai perdu des sommes considérables. On l'a su ici, et mon crédit s'est trouvé ébranlé. Puis, comme j'ai des ennemis, on a clabaudé, on m'a calomnié. Voilà le monde. Selon qu'on réussit ou qu'on se blouse, on est à ses yeux un grand homme ou un coquin. Les gens ont pris peur et se sont précipités vers ma caisse comme un troupeau de moutons. J'en suis là. Si la panique continue, si on me réclame brusquement les millions que j'ai drainés dans tous les coins du département, je serai dans l'impossibilité de faire face à mes engagements. Je me trouverai réduit à opérer honteusement une liquidation désastreuse pour rembourser tous ces poltrons qui bêlent après leur argent. Il frappa du poing sur le bureau et se leva en jurant. « Nom de nom ! Quand je songe qu'avec 6 mois de plus devant moi, j'étais au pinacle !» J'y touchais comme je touche à ce mur. Je me présentais comme candidat officiel aux élections de cet hiver. Lancé par le préfet, soutenu par le clergé, j'arrivais d'emblée et je faisais mon trou au corps législatif. Et il faut que tout s'écroule comme un échafaudage mal construit. Malheur ! Enfin, je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai la poigne et les reins solides. Et je puis encore tout remettre d'aplomb, pourvu que tu me donnes un coup de main. » Étienne avait écouté son père avec une certaine méfiance d'abord, puis avec une attention de plus en plus émue. Tandis que le banquier détaillait ses mécomptes, le jeune homme se sentait involontairement remué à l'aspect de cet homme si orgueilleux et si absolu, contraint par la mauvaise fortune de mettre à nu ses misères et ses blessures d'amour-propre. Une lueur de compassion passa dans ses yeux, tandis que M. Mauga se rasseyait. « Vous avez eu raison de compter sur moi, » répondit-il d'un ton presque affectueux. « Dès qu'il s'agit de l'honneur de notre nom, je n'ai rien à vous refuser. La maison Mauga ne doit pas suspendre ses paiements. Je vous ai laissé l'administration de la succession de ma mère. Disposez-en comme de votre propre fortune. Vendez les terres et les titres de rente, je vous donne carte blanche. Quand on vous verra payer à bureau ouvert, on reprendra confiance et votre crédit se consolidera. » En répondant de la sorte, il avait cru aller au-devant des désirs de son père. Mais, en relevant les yeux, il s'aperçut que Simon Mauga était loin de paraître émerveillé de cette offre. Le banquier serrait les poings et regardait Étienne avec une expression de dédain et de colère. « Voilà tout ce que tu trouves pour raccommoder les choses, » répliqua-t-il. « Merci, je ne t'en fais pas mon compliment. Aliéner le bien de ta mère, et le mien aussi, n'est-ce pas, puisque la fortune est indivise. Mais malheureux, ce serait une goutte d'eau dans l'océan. Du moment qu'on me verrait forcé de vendre, on s'entendrait pour acquérir mes immeubles à vil prix. Loin de relever mon crédit, une pareille opération lui porterait le dernier coup. Non, non, pas de ces sottises-là. Si j'ai compté sur toi, c'est pour un secours plus efficace et j'ai d'autres propositions à te faire. « Je vous écoute, » murmura Étienne, subitement refroidi. « Ce qu'il faut en ce moment, » reprit le banquier, « c'est payer d'audace. lorsqu'on verra que des gens bien posés à Saint-Clémentin, des gens de la haute volée, méprisent les clabauderies de mes ennemis et consentent à mettre leurs mains dans la mienne, on aura de nouveau confiance. Ta pauvre mère avait grandement raison quand elle me répétait que ce qu'il nous fallait avant tout, c'était de la considération, et quand elle visait à une alliance avec une des bonnes familles du pays. Voilà où est le remède, et voilà en quoi tu peux m'aider.
Je ne vous comprends pas.
Vraiment, poursuivit Moga en enfonçant son regard aigu dans les yeux de son fils. En ce cas, je vais te mettre les points sur les i. Il y a ici une famille très influente, les Boisseguin. Ils n'ont pas de fortune, c'est vrai, mais ils sont proches parents du président Sourdeval et de l'évêque de Poitiers. Il y a trois filles dans la maison. Les deux aînées sont mûres et n'ont plus de prétentions. Mais la dernière, Christine, a 21 ans. Elle est jolie, intelligente, et elle crève d'envie de se marier. Il paraît qu'elle a un faible pour les artistes et que tu lui plais. On te la donnerait volontiers. Tu n'as qu'un mot à dire. Et le jour où ton mariage sera publié, la banque Moga sera sauvée. Le banquier, tout en parlant, continuait à dévisager son fils, mais la figure d'Étienne restait impassible et impénétrable. « Pardon, objecta-t-il enfin, ne disiez-vous pas tout à l'heure que la fortune de ma mère serait insuffisante pour désintéresser vos créanciers ?»«
Oui, si nous étions forcés de vendre. » »«
Mais si tu épouses, c'est une autre affaire. Les mauvais bruits s'apaiseront. La confiance reviendra. » Et nous serons plus solides que jamais.
Cependant, cette famille Boisseguin doit connaître votre situation, et il me paraît invraisemblable qu'elle conclue une alliance dans des conditions aussi hasardeuses.
Bah, elle sait que tu possèdes en propre une fortune à laquelle mes créanciers ne peuvent toucher. J'y ai mis bon ordre. D'ailleurs, le père et la mère sont très dévots. J'ai pour moi le clergé, qui a de nombreux capitaux placés dans ma maison et qui a intérêt à prévenir une déconfiture. Ces messieurs exerceront au besoin une pression sur les Boisseguin pour les tromper, interrompit Étienne.
Hein ? Murmura le banquier.
Que chantes-tu là ?
Pour les tromper, répéta froidement le jeune homme. C'est évident. Puisque leur fille croira épouser un mari riche et qu'elle se trouvera la femme d'un pauvre diable.
« Car, s'écria-t-il,
au cas d'un désastre, vous imaginez-vous que je consentirais à disputer à vos créanciers la fortune de ma mère ? Non, désabusez-vous, je leur abandonnerai jusqu'au dernier sou. Par conséquent, ce mariage n'est pas faisable, et il ne se fera pas. Tu aimes mieux me voir ruiné, déshonoré ?
Il n'y a pas de honte à être pauvre,
et votre honneur aura moins à souffrir de mon refus que de mon acceptation.
« Si fait, car je ne t'ai pas tout dit, » répliqua M. Moga en baissant la voix.